Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, je voulais vous souhaiter une excellente année 2026. La santé avant tout, c'est important, et de jolis projets. En parlant de projets, cette année, j'en ai quelques-uns, et parmi ceux-là, il y a ce podcast auquel je pensais depuis un moment sans oser me lancer. Je suis un créatif passionné et j'ai envie de partager cette passion avec d'autres créatifs. Musiciens, auteurs, producteurs, acteurs de la culture, photographes, designers, autant de profils avec qui j'aimerais échanger. Mais créer, pour moi, c'est aussi entreprendre, porter un projet. C'est une dimension qui m'intéresse énormément, donc j'espère pouvoir recevoir aussi des entrepreneurs dans cette émission. Ce podcast, je l'ai appelé Ancréa. C'est un jeu de mots qui désigne à la fois ce moment suspendu où les idées naissent et les convictions, les valeurs qui sont ancrées en chacun de nous et qui nous guident dans nos démarches artistiques ou professionnelles. Pour ce premier épisode, j'ai pas été chercher très loin puisque j'ai la chance d'avoir un père musicien qui a fait danser les foules malgaches dans les années 70 et 80. À Madagascar, c'est l'un des précurseurs d'un courant musical appelé Salég et qui reste aujourd'hui populaire là-bas. Il nous parle de son expérience en tant que musicien et producteur à succès dans une époque où tout était à construire à ce niveau. Donc, je vous souhaite une bonne émission et si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Bonjour papa.
Bonjour mon fils.
Alors papa, quand est-ce que tout ça a commencé pour toi? Tu t'en souviens?
Oui, je me souviens très bien. C'était dès l'âge de 7-8 ans, dès l'âge de ma première communion, quoi, et de la confirmation, car je suis un chrétien catholique. Et j'écoutais à la maison déjà Johnny Hallyday. Et puis j'écoutais aussi, ce sont des noms qui ne parleraient pas trop pour la nouvelle génération sans doute, mais c'était Joe Dassin, c'était Michel Polnareff plutôt, et d'autres. Et donc ça c'était les premiers émois face à ce que c'était le son, la musique, les vibrations, qui me faisait vraiment sentir vivre alors que j'étais un enfant, quoi, à 7-8 ans. Et puis plus tard, vers 10 ans, j'ai commencé à en parler à mes parents que je voulais avoir une guitare. Et donc, mes parents m'ont acheté une guitare à l'âge de 11 ans exactement. Et je commençais à apprendre tout seul et en regardant les autres faire, les autres personnes qui avaient une guitare me montraient où mettre les doigts, etc. Parce qu'on n'avait pas d'école de musique à cette époque-là. Et là, je parle des années 60 et quelques. On n'était même pas dans les années 70, quoi. Voilà. Et la musique, aussi loin que je recule dans ma mémoire, eh bien elle a démarré dès cet âge très tôt, quoi.
Alors, tu commences la musique effectivement à un très jeune âge avec cette guitare que t'offrent tes parents. Mais à cette époque-là, qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un gamin de 11 ans? Ça représentait quoi pour toi, la musique?
C'était, je dirais, une évidence, sans savoir l'impact que ça aurait pu avoir pour mon avenir, etc. Parce que quand j'étais à l'époque, donc vraiment, comme je le disais, jeune. Mais je voyais déjà, comme on dit aujourd'hui, les grands jouaient de la musique, les grands, même quand je déambulais en ville, eh ben, je voyais les boîtes de nuit qui étaient animées par les grands, les grands musiciens. Et c'était ça qui m'a attiré très tôt, quoi.
Le Salek, c'est une musique très physique, très ancrée dans une région. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce rythme, sur ce qu'il dit du nord de Madagascar ?
Le Salek, effectivement, c'est une rythmique, un rythme qui est vraiment spécifique de Madagascar. Car aucun endroit au monde, on joue comme on le joue, cette rythmique-là. Il y a des similarités, on le voit au Cameroun, un rythme qui s'appelle Bikuti, B-I-K-U-T-S-I. Et le Bikuti du Cameroun se rapproche du Salek, alors que géographiquement, Madagascar et Cameroun, c'est quand même très très éloigné. Mais c'est un des seuls rythmes que je connais qui se rapproche du Salek. Et le Salek, c'est une rythmique qu'on dit en musique en 6-8, en solfège, en 6-8. Et il y a des exemples dans mes chansons, par exemple ma chanson « Bilubi Tananane », qui est du Salek pur, et qui est jouée dans le nord de Madagascar. Et qui, au fil des années, eh ben, ça a pris de l'ampleur, et c'est quasiment tout Madagascar qui joue ce rythme-là depuis toujours maintenant, depuis les années 60, donc jusqu'à 2026, on joue toujours le Salek jusqu'à aujourd'hui. Et c'est comme ça que... Mais il n'y a pas que ce rythme du Salek, il y a aussi d'autres rythmes, même européens, qui sont repris par les musiciens d'avant comme moi et des musiciens d'aujourd'hui, quoi.
D'accord. Et tu chantais en fait dans ta langue. Est-ce que c'était un choix artistique, culturel, politique ou juste c'est naturel, c'est la langue malgache?
J'ai fait le choix de chanter dans le dialecte Antankaran, qui est le dialecte qui est la langue qui est parlée dans la région du nord de Madagascar, parce que à l'époque les chansons c'était des disques, qui est des disques 45 tours on disait, puis des disques en 33 tours. C'est après qu'est venu les cassettes. Ben aujourd'hui on parle ni de disques ni de cassettes ni de CD presque, tout est numérisé et, il faut aller sur les réseaux aujourd'hui, donc mais à l'époque c'était des disques et les chansons, il n'y avait aucune qui était dans la langue Antankaran, dans le dialecte du nord de Madagascar, et j'ai fait ce choix là pour faire connaître aussi la région du nord de Madagascar, la région de Diego Suarez, qui a changé de nom, qui est devenu Antiranana aujourd'hui, quoi.
Ben oui, tu l'as très bien fait connaître, puisque à l'époque, tes chansons ont rencontré un vrai succès populaire. Donc, comment est-ce que tu vivais ce lien avec le public ? Est-ce que ça change la manière de créer, de se voir soi-même ?
Oui, c'est une époque, pour moi, on va dire, évolue, parce que ça a duré 10 ans. C'est de l'âge de 18 ans que j'ai commencé à faire mes disques, à chanter. Et à 20 ans, ça a vraiment explosé, avec quelques titres comme Diego Suarez, Ambulbe Tananane, Remandine Sarut, enfin, trois titres, qui est Alléluia Amen, le quatrième, qui était très connu. Et ça a duré, sur une période de 10 années, donc de l'âge de 20 ans à 30 ans, avant que je prenne la décision personnelle de m'élargir et de voir d'autres horizons que Madagascar. Voilà, quoi.
Dans tes chansons, tu parles des gens, de ce qui les touche, de leur quotidien, d'amour. Est-ce qu'à un moment donné, tu as conscience que tu participais à une forme de mémoire collective ?
La conscience, peut-être pas, mais c'était au fond de moi comme un besoin, comme quelque chose que je devais dire dans mes textes. Et ce qui est plaisant, c'est que ça correspondait à ce que les gens attendaient. Donc, in fine, il y avait comme un inconscient collectif qui adhérait à mes textes, à ce que je disais dans mes paroles, notamment dans le titre « Remandine Sarut », qui raconte en résumé les difficultés d'un enfant qui a été trop élevé dans la dureté de l'ancienne époque. C'est-à-dire que c'était pas comme aujourd'hui où dès qu'on est un peu dur dans le sens où on portait la main ou de la ceinture sur un enfant, et on risque d'être mis en cause de violence et même peut-être finir en prison si on est en 2026, quoi. Alors qu'à l'époque, un enfant où les parents le battaient avec une ceinture, ça n'allait pas plus loin qu'une correction normale dans l'éducation. Et encore une fois, je parle des années 60-70.
À un moment, tu quittes la scène médiatique et Madagascar. Comment est-ce que tu as vécu cette transition ? Est-ce que c'était un renoncement ou une autre forme de création ?
Au départ, c'était comme un élan qui me disait d'aller progresser, de chercher d'autres horizons. Et donc, il fallait passer quand même sous une forme de renoncement. Parce que si je cherche à m'ouvrir à d'autres horizons, je pensais que il fallait que je bouge. Ouais. et bouger, ça signifie carrément pour moi quitter le pays et essayer d'autres tentatives, quoi. Et c'est pourquoi j'ai quitté Madagascar et je suis au départ allé en Angleterre. Et ça, j'ai trouvé que c'était un peu dur. Je suis revenu sur la France et je suis resté en France. Et ben, ça fait maintenant 40 ans, plus de 40 ans que je suis en France, quoi.
D'accord. Alors, est-ce qu'on est toujours un artiste lorsque la lumière s'éteint et qu'on n'est plus visible ?
Là, c'est une question très... pas douloureuse, mais qui mérite quand même une explication plus profonde. Dans le sens même où je vois, où je définis ce qu'est un artiste. Parce que pour moi, un artiste, le vrai, pour moi, c'est pas celui qui cherche absolument être adoubé ou être validé par le public. Quoique ça peut être une définition qui est réclamée par beaucoup de gens. Si on n'est pas visible, on n'est pas artiste. Et moi, je pense pas comme ça. Pour moi, on est artiste à vie, pour moi. Ouais. Parce que pour moi, c'est dans ta façon de saisir la réalité, ta façon de vouloir créer, tu peux créer, effectivement. Si tu arrives à être visible, à rendre visible ta création... c'est le Graal.
Ben oui.
Mais pour moi, dire que quelqu'un qui n'a plus de visibilité n'est plus un artiste, je pense que c'est une vision un peu étriquée.
Ouais. C'est ancré en toi, en fait.
Ah, il n'y a pas de doute. Voilà. J'ai aucun doute.
Alors maintenant, on va aborder le sujet de la transmission de l'héritage. Alors tu vois, en tant que père, tu m'as transmis beaucoup de choses. Est-ce que tu penses que la créativité, ça se transmet ?
Je pense que le plus fort, c'est l'exemple, l'exemplarité. Par exemple, même pas que de la musique. Je donne l'exemple que j'avais la passion de lire. Et notamment lire de l'informatique. Et j'achetais des magazines, et j'amenais à la maison tous ces magazines. Et quand j'ai fini de lire, mes enfants, ils voyaient ça, ils se mettaient à les lire aussi, comme ils pouvaient à l'époque, quand ils étaient jeunes. Et je me rends compte que plus tard, c'est eux qui deviennent accros de tout ce qui est technologie, informatique, etc. Et musique, évidemment. Parce qu'ils voyaient que leur père était toujours dans la musique, jouait de la guitare, chantait, etc. À la maison, d'accord, mais il était quand même artiste, comme je le disais tout à l'heure, on est artiste pour moi à vie. ou on ne l'est pas. Mais par définition, on l'a en soi. Et accepter que on ne l'est plus parce qu'on n'a plus la validation extérieure, pour moi, c'est un non-sens.
Aujourd'hui, quand tu regardes les jeunes artistes à Madagascar, quels conseils tu as envie de leur donner sur la création ?
Les donner des conseils, je crois que je ne vais pas m'aventurer dans ça, parce que les artistes, je les vois, je les suis, les jeunes, la jeune génération, ils sont vraiment en avance. Et ça, c'est grâce à la technologie, aux réseaux sociaux, au fait que le monde est globalisé. On peut être en fin fond de brousse de Madagascar et être connecté en Internet ou par téléphone et suivre ce qui se passe aux États-Unis, en France, en Californie, à Chicago, au Japon ou en Asie, ou dans les pays asiatiques, mais à l'instant T, zéro, quoi. Et donc, je ne m'aventurerai pas à donner des conseils parce que je vois que, pour le dire plus rudement, c'est que ils sont en avance. Je peux même dire qu'ils m'ont dépassé largement, à leur manière, évidemment. Parce que si on inverse le raisonnement, c'est très dur pour eux de jouer ce que moi je joue. Ben oui. Il suffit d'écouter mes dernières chansons. Ça n'a rien à voir au niveau rythmique, ambiance, de ce que font les jeunes aujourd'hui. La jeune génération qui joue leur propre musique parce que l'éducation qu'ils ont eue avec les réseaux sociaux et autres, et leur musique est captée et presque. Ils ne peuvent pas se départager de la musique malgache pure qu'ils veulent faire et la musique mondiale qui les agresse presque. Parce que, par exemple, je donne un exemple concret, la grande majorité. Et des musiques qui sortent à Madagascar, ils sont influencés par la musique du Nigeria. Évidemment, ils vont pas faire du copier-coller pur de la musique du Nigeria. Mais ils prennent les rythmiques du Nigeria, ils font une mixture, et ils arrivent à faire leur propre musique, qui n'est pas mal, qui est même très bien. Moi, j'admire ce qu'ils font. Certaines musiques sont vraiment du très haut niveau.
Malgré le peu de moyens qu'ils ont. Enfin, le peu de moyens, en tout cas, par rapport à ici.
Par rapport en Europe, on peut dire qu'ils n'ont pas les moyens d'Europe. Mais, encore une fois, on vit dans un monde globalisé. Il y a des avions une fois par jour qui vont à Madagascar, qui reviennent en Europe. Et donc, les matos, les matériels, ils peuvent les faire venir, ceux qui ont les moyens. Et donc, ils ont, à Madagascar, ils peuvent sortir des productions musicales qui vont pas valoir, évidemment, au niveau technique, les mêmes que ce qu'il y a en Europe, mais au niveau mélodique, ils n'ont pas à avoir honte, les musiciens malgaches de la nouvelle génération.
Alors maintenant, on va aborder un sujet un petit peu épineux. Quand on parle de création, je veux bien entendu parler de l'intelligence artificielle. Toi, l'intelligence artificielle, qu'est-ce que t'en penses ? Est-ce que c'est une opportunité ou plutôt une menace ?
L'IA, l'intelligence artificielle, pour moi, c'est une extension de D'accord. possibilités. Parce que condamner l'IA juste pour le voir comme une menace, c'est pas dans ma vision. Moi, c'est plutôt une opportunité, une aide, l'IA, l'intelligence artificielle. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut qu'on reste honnête envers soi, il faut qu'on reste dans l'intégrité propre à soi-même au moment où on crée sa musique, ou au moment où on compose les textes, qu'on compose les rythmiques, et tous les sons, quoi. Et ben, je donne un exemple concret. Tu composes, tu écris tes textes, et c'est ça ta mélodie. Et tu vas demander à ce que l'intelligence artificielle vienne t'aider au niveau des fioritures, de tout ce qu'il y a à côté, de ce que tu as écrit, de ce que tu as composé, que ce soit textuellement, que ce soit musicalement. Et si tu restes dans cette intégrité-là, je pense que l'intelligence artificielle n'est pas du tout une menace.
Mais tu gardes l'essence, en fait, de ta création à toi, l'idée principale, quoi.
Voilà, moi, c'est dans ce sens-là que je vois, pour moi, que l'intelligence artificielle n'est pas une menace. Ça peut l'être dans le cas où on veut rien faire, dans le sens où on vient, on écrit le prompt, donc on commande à l'IA de dire « Fais-moi une chanson mélancolique et je me tracasse pas, j'écris rien, je compose ni les textes, ni la musique, mais je fais tout faire par l'IA dans le but commercial après de vendre ce que l'IA m'a donné. » Dans ce sens-là, je dirais presque la personne, en revenant à notre discussion du départ, la personne n'est même pas un artiste pour moi, dans ce cas-là.
Oui. Mais oui, c'est il faut garder sa propriété intellectuelle, sa création,
sa compétence, notre propre compétence, parce que l'IA, l'intelligence artificielle, on dira tout ce qu'on voudra, elle n'est pas dotée de conscience, elle est juste dotée d'une énorme capacité de stockage de données. Cette énorme capacité de stockage de données, c'est un peu idiot de ne pas l'utiliser avec nos propres moyens humains, de compositeurs limités, en manque de stockage de mémoire, quoi.
Ben oui, c'est ce que je disais justement un peu avant qu'on commence le podcast là. C'est vrai qu'on voit sur les réseaux tout un tas de productions très très impressionnantes, mais on se rend bien compte que c'est faux, même si c'est très bien fait. Et je trouve, moi, que ça perd de sa valeur. Donc, du fait que ce soit vraiment généralisé, avec une espèce de standardisation comme ça, donc je sais pas ce que t'en penses, mais...
Oui, là, j'abonde à ton sens, parce que on a vite fait de déraper, vite fait, parce que on laisse de côté toutes nos capacités de création, et donc finalement, on va s'ancrer dans rien, quoi. On va juste se reposer sur l'intelligence artificielle en se disant, l'IA va tout faire. Moi, je vais juste récolter ce qui va me donner. Mais ce qui va te donner, c'est un peu l'image de toi-même, mais un peu améliorée. Mais ça ne fera jamais de toi un artiste.
Mais oui, évidemment. Rien de tel que... l'IA doit être un outil et pas une fin en soi, en fait.
Voilà.
Si je comprends bien.
Voilà.
D'accord. Alors, moi, j'ai une question. En plus, c'est plus après toutes ces années d'expérience. Est-ce que tu as un bilan à faire ou une opinion sur l'évolution de la musique malgache en général et du Saleg en particulier ?
Un bilan, ce serait difficile de dresser un bilan.
Une opinion.
Oui, mais une opinion sur l'avenir, par exemple, de la musique malgache. Il est très lié, cet avenir est très lié au développement même du pays. Et quand je pense de développement, je parle de développement sur tous les plans. Développement économique, développement politique, développement musical. Mais tant qu'on restera lié à ces trois autres développements, donc économique, politique et musical... Eh ben, c'est très difficile de voir un avenir dans le sens où avenir où la musique malgache sera connue internationalement. Il y a quelques percées, hein. C'est-à-dire qu'il y a des musiciens malgaches qui vont se produire en Europe, qui vont même jusqu'aux États-Unis, qui est connu comme un héros même du Salig, héros pas H-E-R-O-S, mais H-E accent aigu R-A-U-T du Salig. Il s'appelle Jojo Bezeb. Oui. Ben, il a amené le Salig jusqu'à la salle mythique de l'Olympia de Paris.
Bah oui, je me souviens.
Et mieux que ça, pas mieux ou moins, je sais pas comment le dire, mais il est allé jouer jusqu'aux États-Unis, à New York et autres.
Ah ouais, ça je savais pas, jusqu'aux États-Unis.
Oui,
ah ouais.
Oui. Et il est pas le seul. Il n'est pas le seul. Il y a d'autres musiciens malgaches qui se produisent en Europe et même aux États-Unis et au Canada. Mais c'est des noms qui me viennent en tête maintenant. Mais il y a aussi un autre musicien qui est très connu, c'est Eric Mann, qui fait l'honneur de la, qui fait honneur à la musique malgache. Mais de là à dire que la musique malgache en général va exploser, c'est trop lié aux conditions politiques, économiques de Madagascar.
On approche tout doucement de la fin de ce podcast, mais avant de se quitter, je voulais savoir, c'est quoi ton actualité musicale en ce moment ?
Oui, l'actualité musicale, c'est que j'ai remanié ou remasterisé ou rendu meilleur quelques titres que j'avais fait à l'époque. Et je compte le rendre plus visible cette année 2026. Enfin, je garde l'espoir.
D'accord. Et comment tu... Parce que ça, on n'en a pas parlé, mais on peut en parler maintenant. Comment est-ce que tu as procédé ?
Oui, j'ai utilisé sur certains titres justement ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que je trouve pas conséquent, pas cohérent du tout, de vivre l'époque où on vit aujourd'hui avec toute la technologie qu'il y a, en l'occurrence l'IA, l'intelligence artificielle, et de ne pas l'utiliser. Et donc, dans un de mes titres, c'est à Zambolatir, j'ai dit à l'intelligence artificielle de ne pas toucher du tout à ma mélodie, à ce que j'ai composé comme son et comme texte aussi. Mais j'ai juste demandé d'apporter autour de ce que j'ai mis initialement tout ce que l'IA, tout ce que l'intelligence artificielle pourrait apporter. Et c'est ce que j'ai eu en retour. Et donc, on va pouvoir entendre ça dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent.
Tu m'avais dit aussi un peu avant le début de ce podcast que tu avais fait enregistrer des parties de tes morceaux par des musiciens malgaches. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur la manière dont vous avez collaboré ?
Oui, évidemment. Quand je parle de l'intelligence artificielle qui apporte les fioritures, les choses en plus, quoi, de sur ma composition initiale, c'est que après, il faut rentrer en studio, il faut le jouer. Et pour ça, il n'y a pas mieux que des musiciens malgaches qui connaissent le rythmique Salig et qui vivent à Madagascar pour jouer ça en live, en direct, quoi, dans un studio. Un bassiste, un batteur, un claviériste malgache, et qui joue du Salig, il rentre à studio à Madagascar, il les enregistre. Et comme maintenant, avec la technologie, on peut tout faire à distance, donc quand ils ont fini de tout jouer en live, ils me le renvoient.
D'accord.
En France. Et moi, je chante ce que j'ai à chanter là, dans un autre studio ici en France. Et tout se fait comme ça, quoi.
Bon, voilà, c'est la fin de ce podcast. Merci, papa, pour ce partage. Tu nous as transmis beaucoup de ce que c'est que le Salig et la musique malgache et de ton expérience aussi en tant que musicien. Et c'était très intéressant. Donc, merci pour ça.
À bientôt.
Alors voilà, ce premier épisode d'Encréa est maintenant terminé. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner si vous êtes en audio. Si vous êtes en vidéo sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner également, à activer la cloche pour avoir les notifications des prochains épisodes, à lâcher des commentaires, des likes, bref, vous savez, vous connaissez la chanson. Je vous remercie et je vous souhaite encore une fois une très belle année 2026. Prenez soin de vous.